والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاء الإسلام نغمي اسم الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir après la salat al-Isha pour parler du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait commencé le hadith concernant les sept catégories de personnes qui auront l'honneur d'être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm ala dhilla illa dhillu. Le jour où il y aura d'autres endroits où on pourra se réfugier, il y aura d'autres endroits où on nous trouvera de l'ombre si ce n'est sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce jour, lilla al-mulku, liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Maliki Yawmiddin. Ces trois versets nous font bien comprendre que le jour de la résurrection, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, il n'y a que Allah azza wa jal qui prend les décisions, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui distingue les gens qui étaient dans le droit chemin des gens qui étaient dans le mauvais chemin. Il n'y a que Allah azza wa jal qui peut dire qui c'est qui avait le iman réel de son cœur, qui c'est qui était munafiq, qui c'est qui faisait des péchés caché le soir et qui avait une belle apparence le matin ou le contraire. Qui sait qui donnait l'impression d'être un pécheur en matinée, les gens le critiquaient, le regardaient de travers, mais qui le soir demandait un tauba extraordinaire, exceptionnel, et qui le soir pleurait et se levait pour qiyamul layl. C'est Allah seul qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. On va commencer à ouvrir des parenthèses, on n'en finira plus. Je connais des gens qui ne payent pas de mine. Quand on les regarde, on dirait que c'est des simples civils. Quand il vient, une fois de temps, il vient à la masjid. Même du côté des dames, il y a des dames comme ça qu'on regarde, on a l'impression, pas qu'on regarde, ce qu'on me dit, ça n'a pas l'air d'être des gens très très pieux. Ils donnent pas l'impression d'atteindre des summums de piété. Mais c'est des gens qui se lèvent tous les jours Qiyamul Layl. C'est des gens qui, tous les jours Qiyamul Layl sont levés. Il n'y a pas un jour qui passe, allez, peut-être le dimanche ou un truc comme ça, sans que ces gens-là ils font le tahajjud. Et quand on regarde ces gens-là, je vous dis franchement, c'est monsieur tout le monde. Ou alors c'est peut-être moins que monsieur tout le monde. Donc on doit bien comprendre qu'il ne faut pas juger les gens. Parfois c'est le contraire, on voit une personne qui a une apparence exceptionnelle, on doit se dire que lui il a atteint le paroxysme de sa foi, mais comme ça nous ramène vers le discours de Cheikh Anas dimanche, je ne sais plus où on est quoi aujourd'hui. C'était dimanche ça, c'est dimanche, donc il expliquait, parenthèse sur parenthèse, le cas d'un homme barbu, qui donne l'apparence d'être quelqu'un de bien, fréquentant régulièrement la masjid, en salat, il avait fait un mu'amala, un contrat avec une autre personne. Je ne sais pas c'était quoi, il n'a pas précisé, khair, achat ou vente, je ne sais quoi. Apparemment, la personne, si j'ai bien compris, n'avait pas les crédits, il a dit je vais te donner le chèque après. Quelque chose qui tourne autour de ça. Bref, la personne lui a fait confiance parce que ça avait l'air d'être un homme bien, correct, des barbus. Et que il y a des jours, des semaines, des mois qui passent et il attend toujours son chèque de la part de la personne et la personne dit non, vous connaissez, ben voilà, vous comprenez que je n'ai pas l'intention de payer. Alors la personne était tellement dégoûtée, la personne en face n'était pas un homme qui a l'apparence, subhanallah, comme nous on aime voir le kafni, le bonnet, là, etc. La personne a dit waouh, bamble, razali, parce que je t'ai fait confiance. Parce que tu me donnais l'impression d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ton apparence. Alors que tu utilises cet atout-là pour tromper les gens. Donc, ne fais pas l'hypocrite. Bon, on ne va pas généraliser, on ne va pas dire que tous ceux qui... Non, mais comprenez que, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs ? Allah seul le sait. Sachant que Allah seul le sait, ça veut dire également qu'Allah seul a le droit de porter un jugement. Ce n'est pas à nous d'aller dire, lui il est bien, lui il n'est pas bien, lui c'est un grand, lui c'est un petit, lui... Ça, ce n'est pas notre travail. On a tellement de problèmes, on a tellement de soucis, on a tellement de choses à faire avec nos propres a'mal. Si on se met à chercher les défauts des gens avec une loupe, avec un microscope, on s'en sortira jamais. À nous de voir, de faire notre propre analyse, de voir qu'est-ce qui me manque pour compléter. Comme certains machaires, ils disent, j'aime bien moi ça. Ils disent qu'il faut que le musulman puisse mettre par écrit, qu'Allah donne tawfiq de faire, entre dire et le faire, c'est autre chose, qu'un musulman doit mettre à l'écrit sa journée de 24 heures et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme péché dans sa vie. Autrement, on enchaîne les jours lundi, mardi, janvier, février 2012, 13, 14 et on ne se rend pas compte qu'on n'a pas progressé dans le dîn. Pensez-vous qu'un commerçant, alhamdoulilah, il y a beaucoup qui, la plupart ils exercent dans des commerces où ils ont exercé, est-ce qu'un commerçant serait assez inconscient pour laisser passer des jours, des semaines, des mois sans jamais faire un bilan?
Peut-être qu'il est en train de perdre de l'argent tous les jours avec telle marchandise qui lui fait perdre et qu'il vend à prix cassé. Et lui, il continue à importer, alors qu'il est en train de creuser son chiffre d'affaires. Il y a quelqu'un qui est conscient, qui se fait du souci pour ses matins, pour ses bienfaits, pour les biens qu'il dispose. Il va essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui me fait gagner de l'argent, qu'est-ce qui me fait perdre de l'argent. Quand quelque chose vous fait perdre de l'argent, vous l'éliminez. Vous trouvez une solution, vous bradez, puis khalas, vous ne commandez plus, ça ne marche pas. Mais subhanallah, pour nos amal, si tous les jours on a des fuites dans notre iman, on a des fuites qui sont tellement grosses qui font partir le peu de bonnes actions qu'on accomplit. Est-ce qu'il n'est pas du devoir du musulman de réfléchir, de faire une analyse sur ces aman et de voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est notre travail, notre responsabilité première, plutôt que de juger les gens, de dire que lui, c'est comme ci, lui, c'est comme ça. Après, il y a un autre fitna encore. Il y a certains, on n'est pas là pour plus critiquer, mais subhanallah, avec Internet, il y a des bonnes choses, il y a des choses moins bonnes. Avec les bonnes choses, le côté positif, c'est qu'on peut venir là diffuser des programmes, des bayans qui sont écoutés dans des pays que vous n'imaginez même pas, des gens qui parlent français. Mais après aussi, il y a certains qui passent le temps à critiquer, à casser, à démolir. Lui, il ne faut pas écouter telle personne, lui c'est comme ça, lui c'est tel bidaté, lui c'est comme ça, lui c'est comme ça. Subhanallah, on arrive à un tel stade comme si on ne pourra pas faire l'unanimité sur une personne. Chaque fois qu'on va parler d'un savant, d'un cher connu, hein, pas de notre niveau à nous, de quelqu'un de connu, il y aura toujours quelque chose à dire, à redire. Ben subhanallah, on va suivre qui? On va écouter qui? Ça c'est le gros problème. On doit dépasser ce cap et arriver à un niveau où on peut pouvoir profiter de chaque personne. Quelqu'un, il a, subhanallah, Allah lui a accordé certaines faveurs dans un domaine particulier, mais on doit être capable de profiter. Par exemple, quelqu'un, il est très fort dans la connaissance des religions. Quand on a besoin de discuter de religion, comparaison islam, christianisme, yahoudia, etc., il est très fort. C'est le numéro un. Allez pas regarder les petits détails qu'il y a, qui font que certaines personnes ont pu dire, subhanallah. Il faut faire en sorte que Shaitan n'arrive pas, et ça c'est son but, ça, de mettre, de semer la zizanie entre nous. Ça c'est un gros problème. Bref, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, qui c'est qui était là hier? Junaid était là hier? Hein? Un morceau. Aïssa, vous étiez là hier?
Dimanche.
Hein? Oui, dimanche, pareil. Alhamdulillah. T'es là hier, Mu'ammar? D'accord, alhamdulillah. Akhtar? Il y a Cheikh, d'accord? Vous savez qu'il y a un syndrome ici à La Réunion, c'est quoi? C'est que, il y a beaucoup d'ulama, il y a beaucoup de savants, il y a beaucoup de bayans, il y a beaucoup de discours. Mais c'est comme si qu'il y a un trop plein. C'est comme si que les gens, ils ont le vent plein. Ils n'ont plus besoin d'écouter. À moins de faire un truc extraordinaire et que vous annonciez qu'il y aura un grand bilani offert. Ah là, mashallah, tout le monde sera là. Mais c'est malheureux, c'est qu'on a, bidnillah, on a des savants. Il y a, bidnillah, le ilm à donner. Il y a à prendre. Et il n'y a pas preneur. Dans certaines régions de métropole, dans certaines régions, il y a des savants, alhamdoulilah. Dans certaines régions de France, ils sont à la recherche du ulama. Ils écrivent, ils envoient des mails. Venez vous installer dans la région parisienne, tel endroit. On s'occupe de tout. Venez enseigner, venez travailler là-bas. Et subhanallah, il y a une demande énorme. Les gens qui y sont parfois, c'est des gens qui ont appris un peu, comme on dit, sur le tas, avec tout le respect pour le travail qu'ils font, alhamdulillah. Mais ils n'ont peut-être pas autant de recul et ils n'ont pas passé des années à apprendre le Coran et la Sunna. Ce qui fait qu'ils font avec les moyens de bord. Ils sont à la recherche de mashaïkh, de ulama, de savants qui peuvent expliquer la religion. Ici, il y en a, subhanallah, tous les 3 mètres carrés de la masjid, on a un savant, mais c'est comme si que, khalas, il y en a trop et donc on n'en veut plus. Wallah musta'an. Donc à nous de prendre conscience, ce programme-là qui a été, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas que ça passe par la tête de quelqu'un, on va faire un programme comme ça. Non, c'est que ça, c'est l'aboutissement d'un fikr que certaines personnes ont fait par rapport à un constat. C'était quoi le constat? Le constat, c'est la situation de nos jeunes. Mais c'est une situation qui n'est pas visible. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de sensibiliser? Parce qu'il y a des choses qui se passent au sein de notre communauté que les parents ne savent pas. Il y a des parents qui ont des enfants qui font des choses, ils ne sont même pas conscients. Vous savez, quand on parle de consommation d'alcool, qui aurait pu penser qu'un jour on aurait dû faire un bayan dans une masjid à ce propos? Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on se dit que ça c'est pas un bayan pour nous ça. Ça c'est pour ceux qui ne sont pas musulmans, eux, ils boivent de l'alcool, mais pour nous il n'y a pas besoin. Qui aurait pu penser qu'un jour on aurait besoin d'aborder le problème, hein, la thématique de l'homosexualité? On dit, attends, ben, un musulman, il peut pas faire ça. Dans le Coran, s'expliquer de manière claire, dans les hadiths de manière claire. Personne ne ferait ça à notre époque. Aucun mu'min qui se respecte ne le ferait. Mais aujourd'hui, on a besoin d'aborder. Aujourd'hui, on a besoin d'expliquer aux parents qu'il y a dans une communauté des jeunes filles de 14 ans, de 15 ans, qui vont voir des assistantes sociales, des infirmières, pour des infirmières, des docteurs, pour faire un IVG. Interruption volontaire de grossesse. Et les parents, ils savent pas. Soit ils ne sont pas conscients, ce que les jeunes cachent très bien les problèmes, ou alors ils ne veulent pas voir. Pensez-vous, une jeune fille de 15 ans, 16 ans, qui samedi soir elle sort, elle rentre avant Fajr dimanche matin, il n'y a pas un problème là? Elle va quoi? Elle va un jalsa? Elle va un khatm al-Qur'an? Elle va faire quoi? Elle va faire ta'alim? Là, il faut pas se voiler la face, au sens figuré, hein. Il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on a peur. On craint que si on donne un coup de pied à la fourmilière, on va voir plein de choses. Et on ne pourra pas assumer. Parce que peut-être que moi, en tant que papa, ben, j'ai jamais été présent. S'il y a eu une telle distance entre moi et mon fils, moi et ma fille, qui fait qu'elle est arrivée à un tel point, qu'elle est dans tel péché, et qu'elle n'arrive même pas à en parler à son papa ou à sa maman, c'est pas uniquement sa faute, hein. C'est peut-être que moi, quand j'étais plus jeune et que ma fille ou mon enfant avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'étais aux abonnés absents. Absorbé par mon travail. Absorbé par ce que je faisais, ce qui faisait qu'il n'y a jamais eu de communication. S'il n'y a pas de communication, vous pensez que la relation de confiance s'installe en un coup de baguette magique? À 15 ans, tout d'un coup, il a confiance en vous, vient vous dire tout. Jamais! Si depuis la plus tendre enfance, vous avez expliqué ça, il y a subhanallah très longtemps, Ali ibn Abi Talib dit que c'est quoi les trois phases? Il y a la phase où on aime, on donne de l'amour. Il y a la phase qu'on éduque jusqu'à l'âge de 14 ans. Après c'est fini, il n'y a plus besoin d'éduquer l'enfant. À partir de 14 ans, l'enfant est devenu l'ami du père. Est devenu l'ami du papa. Parce qu'à 14-15 ans, c'est fini. À 14-15 ans, c'est l'adolescence. Il a ses propres idées. Il veut se démarquer. Il veut affirmer sa personnalité. D'accord? Il est en opposition. Il est en opposition. C'est pas cet âge. Jacques ou sa tièce aux oreilles vient à masjid. Il faut un canon de nos jours. C'est un enfant frappe son papa, il va pas en prison. Un papa frappe son enfant, SOS enfant maltraité, le papa il est en prison. Ajib dounian, hein? C'est-à-dire que si à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, à l'âge où l'enfant est encore docile, il écoute, il est là pour vous écouter, il a la recherche de repères. À 15 ans, il n'a pas besoin de repères, lui. À 15 ans, il ne cherche plus de repère. Ce ne sera pas vous ce repère. À 15 ans, s'il n'a pas déjà eu le repère depuis l'enfance, il va chercher le repère où ça? Dans la rue. Il va chercher les repères où ça? Parmi ses amis. Le caïd, le plus ancien du lycée, du machin, lui qu'on le respecte, ça va être lui son modèle. C'est-à-dire qu'on doit. C'est-à-dire, c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ces enfants sont grands, il y a d'autres méthodes. Mais ceux qui sont encore jeunes, quand on a encore des enfants en bas âge, il faut se dire que l'éducation, ça commence pas quand ils seront à lire. Hein. L'éducation, ça commence par l'amour. Et éducation n'est pas synonyme de bâton. Éducation n'est pas synonyme de restriction. N'est pas synonyme de condamnation, de punition. Et tout ce qui finit par on pourrait faire un slam ce soir. L'éducation, ça commence par l'amour, la tendresse et la présence. Parfois, il n'y a pas besoin de grand-chose, il suffit d'être là. Au lieu d'être après namaz, école, camarade, je ne cache pas quelle heure. Je parle pour les jeunes pères de famille ou pour les anciens. Allez, mange au bébé, écoute camarade. Bah, il finit marié ou ça mange au bébé, encore camarade. Ou ça joue au football avec camarade. Ou tu es marié, mon frère. Qu'est-ce que tu vas jouer encore au foot avec tes amis? Tu as ta femme qui est là, tu as tes enfants qui sont là. Ils n'ont pas souhaité avoir un papa qui va jouer au football. Ils souhaitent un père qui est présent, qui est là, qui les écoute. Moi, je me rappelle un de nos professeurs, à Madina Mounawara, il expliquait que depuis qu'ils étaient petits, arrivé l'heure de Maghreb, il a dit que c'était une autre ambiance dans la maison. La maman, elle s'asseyait, ils éteignaient les lumières, ils allumaient une lumière tamisée, et ils avaient un tapis spécial, bon, c'est des détails, hein, vous avez dit que, mais ça compte, un tapis spécial qu'ils mettaient, qui était confortable, et là, tous les enfants s'asseyaient, et la maman s'asseyait. Et puis quand le papa est sorti, il vient, il s'asseyait, et toute la famille était réunie, ils parlaient, discutaient. On se croirait dans la petite maison de la prairie, dans un conte de fées. Vous dites que c'est irréalisable? Est-ce qu'il faut être riche pour faire ça? Même si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave. Asseyez-vous à table. Mais c'est ça qui forme le noyau familial. Quand l'enfant est autour d'une table, Il sait qui c'est qui a l'autorité. Il voit que la maman parle. Il voit qu'au-dessus, il y a le papa qui parle aussi. Il y a le papa qui donne des ordres, qui donne des directives, qui explique. Quand on a un problème, on explique que le papa vous dit, voilà, prenez telle décision, c'est comme ça qu'il faut faire. Et la maman, avec l'amour, la tendresse, qui parfois est équilibrée avec la sévérité volontaire du papa. Là, l'enfant, il a des repères pour lui, c'est clair. Vous savez que les psychologues disent qu'un enfant qui grandit dans une famille monoparentale où il y a un divorce, il y a toujours un déséquilibre. Mais là, c'est pire. C'était comme si que les parents ils n'existaient pas. C'est même pas qu'il y a un, il n'y a pas l'autre. C'est comme si que les deux étaient absents. Avec la maman qui revient du travail, hein, qui revient du travail, qui fait que ben, quand on arrive, on met un plat sur le gelé dans le micro-ondes et on mange rapidement et tout. Il n'y a plus, subhanallah, ce noyau familial. Il n'y a plus cette maman qui est la murabbiya. C'est elle qui est la première médersa, la première école pour le mu'min. Vous savez, le rôle d'une maman, c'est exceptionnel. Le rôle d'une maman, c'est hajib, ce que l'islam a donné comme droit à la femme. Je suis mari. J'ai pas le droit de demander 1 euro à mon épouse pour payer le loyer. J'ai pas le droit de demander à mon épouse, bon, je paye l'électricité, toi tu payes l'eau. Ou alors moi j'achète ça, toi tu achètes le gaz, il faut que... Subhanallah. La femme, elle est protégée, subhanallah. Elle a tous les droits. Elle a quelques devoirs, mais elle a tous les droits. Et elle a une responsabilité qui, subhanallah, dont dépend la umma. Elle a une responsabilité dont dépend la Oumma. Yani, ces jeunes générations qui poussent, leur voie qu'ils vont choisir, bi'idhnillah, va entre autres dépendre de la manière que leur maman les a éduqués. La conception du bien et du mal, la tarbiya que la maman a pu donner à la maison, c'est ça qui fait que l'enfant va choisir son chemin. Ça nous ramène également vers une parole magnifique de Mouna Ishaq Patel. Hier, c'était la seconde intervention. Il dit une parole magnifique. On retiendra que ça, mais c'est le plus important. Il dit que quand un papa dit à son enfant, « Mon enfant, ne fais pas ça. » Il faut qu'il explique que c'est pas « ne fais pas ça parce que je suis musulman. » Ce qu'il ne va pas comprendre. « On ne fait pas ça parce que c'est pas bien. » »« On ne fait pas ça parce que nous, on ne fait pas ça. » Non. Faire comprendre à l'enfant, c'est ce qu'on avait dit. On avait beaucoup insisté là-dessus. Avant, quand on parlait des jeunes qui, à 18 ans, ils vont en boîte de nuit après, quand ils sont en France, etc. Que faire comprendre à l'enfant, « Ne fais pas ça. » Allah n'aime pas ça. N'oublie jamais qu'Allah t'observe. Faire appeler à l'enfant, dis tu as fait telle bêtise. Qui t'a vu? Moi j'étais pas là. Dis-moi qui t'a vu. Fais en sorte que l'enfant finisse par cracher, par dire que Allah m'a vu. Et également les anges qui sont à droite et à gauche m'ont vu, ils ont inscrit. Fais en sorte que l'enfant, même s'il n'y a pas le regard des parents, il est conscient que Allah Azza wa Jal l'observe, le surveille. Et ça nous ramène vers le usloub du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à cet enfant qui est sur le cheval avec lui, si tu as besoin d'aide, demande à Allah. Idha sta'anta fasta'in billah. C'est-à-dire dans n'importe quelle situation de ta vie, tu dois retourner vers Allah. Le prophète n'a pas fait ce bayana à des adultes, il a dit à un enfant. C'est-à-dire il est en train de former le iman d'un enfant, la conviction. Nous on forme l'apparence. Nous on forme la lecture. Notre fierté, c'est que notre fils soit hafiz al-Qur'an. Il y a une personne qui m'a interpellé après Zohar aujourd'hui, qui m'a interpellé très longtemps même d'ailleurs, me dit que il n'est beau père hafiz, c'est Nico Benana. Il m'a dit, il doit avoir beaucoup. Junaid est hafiz, Akhtar est hafiz. Je ne sais pas qui c'est encore qui est hafiz al-Qur'an parmi les jeunes. Il a dit, où c'est tout hafiz le namaz? Il a dit, à l'école. Il a dit, non. Il a dit, le seul salat où on voit tout le monde, c'est Maghrib. Mais les autres salats, salat al-Fajr, salat al-Isha. C'est-à-dire, en dehors des yeux, on doit être autour parce qu'il y a madrasa ou autre chose. Où sont-ils? Autant de huffa dont on est fier. Elle dit, mais où est ce hiv? Où est ce Qur'an si ces gens-là ne viennent pas à la salat? Donc, nous, on a essayé de former, on a essayé de faire lire correctement le Qur'an, mémoriser, etc. Mais, Allahu Akbar, on a besoin de former l'intérieur de ces jeunes-là. Que dans leur cœur, il y a qui? Il y a Allah. Celui qui a compris que Allah est avec lui, Allah le surveille, Allah l'observe, qui a kiraman katibina ya'lamuna ma. Tafa'aloun, ça fait 2. Et qu'Allah Azza wa Jalla a créé des anges qui viennent le matin et qui rapportent les actions. Il y a un autre qui vient le soir qui rapporte les actions. Cet enfant, il va grandir avec cette vision des choses. Quand il est au collège, quand il est en quatrième, qu'on lui propose sa première taf de Zamal. Si encore il est en quatrième, c'est qu'il s'en est bien sorti. C'est que jusqu'à maintenant, il était protégé, parce que ça vient bien avant. Quand on lui propose sa première taf, il dit, « Arabe, râle, ça, wa, wa, tu vois le paradis. » Si dans son cœur il a compris que ça, c'est pas que je ne le fais pas parce que c'est pas bien, parce que papa m'a dit pas bien, parce que Allah me voit à ce moment précis, il saura prendre ses distances. Il saura quelles sont les limites. Quand arrivé en sixième, en cinquième, il y a les filles qui viennent lui faire la bise, il saura dire que moi je suis musulman, je ne fais pas. C'est pas qu'il aura honte de son identité et dit ben s'il ne fait pas, ben avec quelqu'un il est bizarre, mais il veut faire comme tout le monde. Non, il va le dire avec de manière très calme, très posée, très intelligente que moi, je suis musulman et par rapport à mes convictions, je ne peux pas faire ça. On va bien s'entendre, il y a aucun, enfin bien s'entendre. Dans le cadre de l'école, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais ça, c'est une des choses que je ne fais pas. C'est tout, c'est ma liberté, c'est ma vision des choses. S'il a eu l'éducation qu'on a dit, il sera un fier d'être musulman et surtout il va pratiquer et il va s'éloigner du haram avec intelligence. Même si au lycée il sort à 5h30, comme en ce moment. Dites-moi, nos lycéens qui sortent à 17h30, là en ce moment Maghreb il est quelle heure? 6h20, bon, il est encore un peu tard. Mais quand Maghreb sera à 17h45, est-ce qu'il y a des papas qui se font du souci que mon fils sort à 17h30 du lycée? Comment il va faire salat al-Asr? Non. Nous, on se fait du souci, bac blanc, bientôt. Il faut qu'il réussisse. Il faut qu'il arrive à avoir ce diplôme pour ne pas faire honte à la famille, pour avoir, etc. Mais il n'y a pas un, enfin, où il y en a très peu qui se disent que, oh mon enfant, là, la salat al-Maghrib sera à 17h45, tu as un battement de 15 minutes. Débrouille-toi, mais il faut que tu fasses ton salat. Trouve-toi un endroit, mais tu es musulman, ne rate pas ta salat. Ça, c'est inacceptable aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que nous nous faisons les vrais ficales, les vrais soucis? C'est pas que durant toute l'adolescence, on booste l'enfant. Allez, travaille, il faut avoir ton brevet. On va te mettre dans telle école prestigieuse qui est privée pour avoir de meilleurs résultats. On le booste pour réussir ses études. Et puis à l'âge de 16 ans, 17 ans, il commence à déconner. Il vient vous dire que je suis désolé, je suis pas comme tout le monde, je suis homosexuel, je suis comme ça. Ou alors que j'ai une copine, je sors avec elle depuis 2 ans et on va habiter ensemble. Et là, tout d'un coup, Allah, mon enfant, mais toi, ta foi, tu n'es pas musulman. Mais depuis l'âge de 10 ans, on m'a jamais dit que j'étais musulman. Vous vous êtes jamais fait du souci pour mon iman. Vous vous êtes fait du souci pour mes études. À nous de bien comprendre et de ne pas accuser uniquement les jeunes. De ne pas dire à chaque fois que ben jeune là, il n'est plus des adriens. Ben là, il finit arrivé à une situation, il n'est plus, il n'est pas récupérable. Attention, ne pas se dédouaner. Ne pas prendre comme excuse la fitna. Certes, il y a une fitna. Mais Allah a mis en chacun la possibilité, bi'idhnillah, d'éduquer son enfant. Vous savez, la relation d'un père et son fils, c'est une relation qui est exceptionnelle. Le fils est à l'écoute de son papa. Ça nous ramène vers. On est en train de faire le, comme on dit, Kalbouzari du programme d'hier. Bon, père n'était pas là. D'accord? Ça nous ramène vers la première intervention, qui était la mienne. Bi'idhnillah, sur le rôle de la masjid. Le but est d'expliquer aux musulmans quel est l'attachement d'un mu'min avec la masjid. Ça nous ramènera, inshallah, vers la catégorie de personnes qui, selon le trône d'Allah, rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. On avait parmi les points qu'on peut retenir, on citera une phrase de chaque intervention, mais dit que la masjid est également un lieu exceptionnel et unique, surtout à notre époque. Je dis unique pour la tarbiya de l'enfant. Quand un papa amène son enfant de 6 ans, 7 ans à la masjid. Allez, de 5 ans, 6 ans. L'enfant vient pour la première fois à la masjid. Il est tétanisé, il a peur. Un endroit qu'il ne connaît pas, il y a plein de gens. Il ne connaît personne. La seule personne qu'il connaît, c'est qui? C'est son père. Donc il va se rattacher, il va se coller avec lui. Alors que la maison donne chemin, je ne suis pas là et cool. D'accord? Il y a plein de gens, il y a plein de choses. Il a ses jouets, il a ses consoles, il a tout ça. Mais là, il est gharib, comme on dit. Il est un peu étranger dans un endroit. Il se rapproche de son père. Et pour lui, son référent, son modèle, c'est qui là? C'est son papa. C'est son père. Et après la salat, le papa l'amène dans un petit coin et il commence à parler à son enfant. D'un endroit où l'enfant sait qu'il ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer avec son portable, il ne peut pas faire autre chose, il ne peut pas courir, il ne peut pas s'amuser, il doit rester silencieux. Mais le message que le père va faire passer à son enfant, assurément, la capacité d'écoute, elle est à 100%. Ce que vous allez dire, il va vous écouter. Essayez de faire passer un même message à la maison, il y a la télé, il y a ça, il y a le téléphone qui sonne, il y a les GSM, il y a tellement de choses que la capacité d'écoute, elle est minimum. À la masjid, il n'y a rien de tout ça, il n'y a aucun élément perturbateur, c'est le moment idéal pour prendre l'enfant à côté de soi avec muhabba et de lui expliquer c'est quoi être musulman. Pourquoi est-ce que je fais sijda? C'est qui Allah? Comment Allah est grand? Comment est le trône d'Allah? combien d'anges Allah a créé, comment les anges sont grands, comment nous on est petits, qu'est-ce qu'Allah attend de nous, comment Allah il est bon, comment Allah est gentil, comment Allah surveille ce que tu fais. Quand tu fais une bonne action, Allah il te donne beaucoup plus. Quand tu fais un péché, Allah il est prêt à te pardonner si tu lui demandes pardon. Inculquer ces notions de base à l'enfant. Et je vous assure que les enfants comprennent. Il ne faut pas se dire qu'il est trop petit, il ne comprendra pas. Non, les enfants comprennent. Regardez une catastrophe. Hier, j'ai dû appeler ça une catastrophe. Après mon intervention, j'étais à l'extérieur, quelqu'un vient me voir, un jeune. Il pose des questions, mais des questions un petit peu bizarres sur la religion. J'essaie de décrypter, je dis, parce que quand il pose une question, on voit à peu près c'est quoi la tendance. Puis j'ai dit, mais c'est quoi, pourquoi tu poses de telles questions? Il m'a dit, déjà, tu t'appelles comment? Il m'a dit, je m'appelle un tel. Et il m'a donné son nom de famille, c'est un nom de famille musulman. Et puis, je lui ai dit, ben, tu fréquentes quel masjid? Il m'a dit, non, je ne suis pas musulman. Il a dit, oui, mais notre père, ben, ils habitaient pas à La Réunion et tout. Il a dit, notre papa nous a laissé le choix. Ça, c'est la nouvelle thèse, ça. Il ne faut pas obliger les enfants à avoir une religion. Quand ils seront majeurs, ils vont décider. Là, il a 18 ans. Il vient me poser des questions sur le takdir, sur Allah. Il a dit que je suis en train de réfléchir. Peut-être j'ai envie d'entrer dans l'islam, mais je vais être sûr de moi. Je ne vais pas faire d'erreur. Je vais poser toutes les questions. Et là, je me dis, la ilaha illallah, quelle catastrophe. Une personne, un adulte qui a 17 ans, 18 ans, il ne s'est jamais prosterné devant Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que son papa, sa maman, ses parents ont jugé bon de lui accorder la liberté. Ça, c'est le nouveau courant, ça. Les enfants sont libres. Laissez-les choisir leur voie. Ah bon? Et quand il arrive du temps, il n'a jamais fait un, si j'ai jamais fait un salat, il est en train de rechercher sa voie. Il recherche sa voie, pourquoi? Parce qu'il sent qu'il y a un manque de son cœur. Il n'y a pas le spirituel, il n'y a eu que le matériel. Allah musta'an. Et pour conclure, encore deux petites phrases, une intervention extraordinaire, magnifique, de Cheikh Abdul Razak, qui étudie à Madine, à Kulia Sharia, et qui a fait des études de droit. Il a dit une parole qui, j'apprécie, j'ai kiffé ce qu'il a dit. Il a dit que, même si je fais telle chose, j'ai autant de diplômes et tout, quand les gens me regardent à la rue, ils disent quoi? Ils disent, vous n'avez comment? Et c'est comme ça. Il m'a dit, mais et alors? Il a dit que, il s'est adressé à la communauté comorienne mahoraise, il faut qu'on apprenne à s'accepter. Ne pas se faire de complexe. Et ça, c'est une parole en or, que quelles que soient nos origines, que nous soyons mauriciens, que nous soyons malgaches, comoriens, maorés, quel que soit, on n'a pas à avoir honte de nos origines, parce que les origines, ça passe après. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui va dire que comment, hey, malgache, c'est un jahil. Et qu'est-ce qu'Allah t'a dit au Coran? وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Juhal, les juhal, les ignorants, il y a eu à toutes les époques. Si Allah Azza wa Jalla a jugé bon de le révéler à l'époque, quoi, sallam, c'est qu'à leur époque, il y avait des juhal. C'est-à-dire que ce genre de réaction a toujours existé. Le mu'mine, pour se construire, il a besoin, il faut tout d'abord qu'il soit fier. Pas fier, mais il faut savoir s'accepter et se dire que, quelle que soit ma couleur, mes origines, je suis avant tout un musulman. Je suis avant tout un mu'mine. Et être fier de ça. Et terminé par une citation également, on a fait un petit tour des conférences d'hier, de Mohanas également, qui avait dit une parole qui était très bien, hein, une parole qui était importante concernant les priorités. On ne va pas tout dire, vous avez qu'à écouter, c'est disponible. Les priorités dans l'éducation. Il y a des fois, on se focalise sur des, entre guillemets, des détails et on laisse des choses extrêmement importantes passer. Et puis en conclusion, Moïse Bagat avait expliqué un petit peu les différents ahwal, différents problèmes que connaissent la jeunesse, problèmes dont on n'est pas toujours au courant, pas toujours conscient, et quelles solutions on peut apporter. Donc ce genre de programme, c'est constructif. Hein, ce n'est pas juste de faire un bilan négatif de tout ce qu'il y a comme problème. Non, le but, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y ait des parents, des jeunes, hein, qui sont prêts à venir nous aider. Après tes mains fortes, dis bon, on sait, on est tous conscients que même si je suis pas encore marié, j'ai pas d'enfants, ou alors mes enfants sont encore bébés, mais je sais que quand un jour ils seront en 6e, 5e, ben, la situation ne peut que s'empirer. Et qu'un jour je vais connaître ces mêmes problèmes. Donc c'est dès maintenant, on doit essayer de trouver une solution. Comme on le dit souvent, nos grands-parents, alhamdoulilah, arrivés à La Réunion, ils ont construit des masajid, ils ont construit des madaris, et nous on a hérité de ça. Mais dites vraiment, qu'est-ce que nous on a fait de plus? Qu'est-ce qu'on va léguer de plus à nos enfants? C'est les mêmes mosquées qu'on va leur donner. Il y a quelques endroits comme Montreuil, alhamdoulilah, qui a été construit, comme la Possession, comme Saint-Louis qui a été agrandi. Mais sur le doigt d'une main, on doit compter les constructions qui datent de moins de 40 ans, de 50 ans. Et la priorité, c'est quoi? C'est maintenant de réfléchir à la création d'un établissement collège, lycée pour les musulmans. Ça, c'est la priorité avec un grand P. Parce qu'on a, on a tous compris, hein, depuis quelque temps, on parle de l'éducation de ces jeunes qui seront sous le mouton d'Allah parce qu'ils ont passé leur jeunesse dans l'obéissance d'Allah. On a donné des exemples de personnes, parfois même des ulama, on peut être alim et avoir un enfant, on l'éduque comme il faut, et à un moment donné, il file entre nos doigts. À un moment donné, on n'a plus contrôle. On peut être un grand da'i, on peut être le plus pieux des pieux, être le plus sévère à la maison, avoir une éducation stricte, mais quand l'enfant rentre au collège et au lycée, à un moment donné, c'est incontrôlable. Parce qu'il passe beaucoup de temps, voire la moitié du temps, il passe à l'extérieur. Voire plus de temps, si on ne compte pas la nuit quand on dort. Ce qui fait qu'il y a d'autres influences. Il ne va pas vivre tout le temps au sein du noyau familial avec papa et maman. Si on a bien compris que le problème vient de cette étape, et ça, tout le monde l'a réalisé, c'est pas en CP, CE1, CE2 qui commence à tomber dès le final. Non, c'est à partir de 5e, 4e, 3e. On a tous réalisé que c'est là, c'est de là vient le problème. Ben subhanallah, vous croyez que la solution est introuvable? Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que si le problème est à cette tranche d'âge par rapport aux écoles, ben ouvrons nos écoles. Sans sombrer dans le communautariste, jamais de la vie. Comme la médiation est à l'imuslam, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Sauf que on est plus strict. On est plus strict dans la cour. On ne va pas trouver un jeune garçon avec une jeune fille en train d'embrasser pendant 15 minutes de la récréation. Non, on n'aura pas ça. On n'aura pas des petits vendeurs, des petits dealers, des shit au toit du collège, au toit du portail. Non, on n'aura pas ça. Parce qu'il y aura une certaine surveillance. Il y aura la pudeur. La pudeur fera partie des notions dans le cadre de liaison. Que la pudeur, s'habiller correctement, s'attarder couvert pour les garçons, pour les filles, ça fera partie des priorités. Donc il faut bien prendre conscience que ça c'est le plus important à notre époque, c'est la priorité. Il y a rien de plus important pour le moment. Vous savez, les bayans, on en fait, on télécharge, on diffuse, etc. Mais il n'y a jamais autant de jeunes qui vont en boîte de nuit. Il n'y a jamais eu autant de ulama, il n'y a jamais eu autant de alim francophones, il n'y a jamais eu autant de discours dans les masjids, Jum'a, les programmes spéciaux, les programmes hebdomadaires, il n'y a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant de livres en français traduits, il n'y a jamais eu autant de madrasa. Mais il n'y a jamais eu autant de jeunes qui vont en boîte de nuit, il n'y a jamais eu autant de jeunes qui fument du zamal, de l'antane, de la cocaïne, etc., etc. Il n'y a jamais eu autant de jeunes filles musulmanes qui vont en boîte, qui font le zina, na'oud billah, Allah musta'an. C'est-à-dire qu'il y a un problème. D'un côté, on apporte de bonnes choses, mais de l'autre côté, il y a une fuite. Et là encore, cette fuite, elle est localisée. C'est cette tranche d'âge par rapport à ce lieu. Et c'est à nous de trouver. On a trouvé la fuite, on comble la fuite, on essaie d'apporter la solution. Ne me dites pas que la communauté musulmane n'a pas les moyens. Ne me dites pas qu'on n'a pas assez d'argent pour mener à bien ce projet. Quand tu es le projet, on est capable d'investir. Il y a des gens qui investissent, subhanallah, par millions pour acheter un terrain, pour faire monter des bâtiments, pour le revendre. Subhanallah, il y a bidnillah. Et la baraka, c'est Allah qui donne. Si on est sincère de ce niyat, de ce projet, on va voir les futuhats de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est pas un luxe. Ça, c'est plus important que d'envoyer nos enfants à l'étranger à prendre le dîn. C'est beaucoup plus important que d'envoyer nos enfants à l'étranger apprendre le dîn, devenir des savants, des mouftis, des alims. Parce que là, on est en train de protéger le iman. On est en train de protéger le iman de la masse, de la majorité des enfants des familles musulmanes. De faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans les erreurs que Allah Musta'an ont commis de nos jours. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre. On est à 34 minutes. On ne veut pas retenir. Si quelqu'un est pressé, la haraj, on voudrait juste compléter à 40 minutes. Encore 6 minutes, vous m'accordez, parce qu'on n'a pas commencé donc le sujet du jour. On avait dit que parmi ces jeunes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de la résurrection, il y aura Sha'abun Nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi, qui est resté dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, depuis qu'il était jeune, dans les moments où il y avait le plus de shahawat, dans les moments où il y avait le plus de pulsions, d'envie de faire de péché, il est resté dans le droit chemin. Si un jeune de l'âge, depuis 17 ans jusqu'à 25, 30 ans, il est resté dans le droit chemin, c'est pas quand il va dépasser 35, 40 ans qu'il va faire le péché. Il l'a, mashallah. En général, quand on a passé ce cap, qui est le cap où on est le plus vulnérable, parce qu'on a le plus de désirs, et qu'on est resté dans le droit chemin, alhamdulillah, on est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des gens parfois, souvent se disent, oui, mais ça c'est impossible de réaliser. Alors notre objectif qu'on va compléter, inshallah, par la suite, mais juste un exemple aujourd'hui, on va voir que parmi les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, on avait dit la dernière fois, l'âge des sahaba lors de leur conversion. Il y en a qui avaient 16 ans, 13 ans, 18 ans, 22 ans, 25 ans, mis à part Hamza, radiallahu anhu, et Abu Bakr al-Siddiq, qui était presque, il y avait presque le même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ces premiers musulmans à Makkah étaient tous des jeunes. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de dire que l'islam donne de l'importance aux jeunes, non. C'est que l'islam est monté, bi-idhnillah, par l'intermédiaire des jeunes. Les premiers musulmans, c'était des shababs. C'est eux qui étaient les porte-drapeaux de l'étendard de l'islam. Il avait dit qu'également, subhanallah, à la fin des temps, vous voyez que celui qui ira affronter Dajjal, quand il s'approchera de la ville de Madina, dans certaines versions, on dit que c'est un jeune homme, parmi les meilleurs de cette umma, qui ira affronter Dajjal, qui ira le défier, et que Dajjal le tuera, le redonnera à la vie, bi-idhnillah, mais qui, par son sacrifice, Allah va enlever le pouvoir à Dajjal. Quand Dajjal va essayer de le tuer à nouveau, il a dit que maintenant tu ne pourras plus rien faire. Car le prophète l'avait annoncé, quand il aura tué une fois, redonné la vie une fois, et que ce jeune va refaire encore kufr, ce Dajjal dit que non, tu es l'antéchrist que le prophète nous avait annoncé, là il va essayer de le tuer une autre fois, et il ne pourra plus, Allah va le reprendre ce pouvoir à tout jamais. Ce dîn a commencé avec des jeunes, et à la fin des temps seront des shababs qui seront encore les porte-drapeaux de cette religion. Et aujourd'hui, on ne citera qu'un exemple. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, on parle d'un jeune homme de 18 ans. Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il était avec le prophète, il n'avait pas 65 ans, il n'avait pas 60 ans avec une grande barbe, un vieil homme pieux. Il avait 18 ans. À 18 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire? Et il serait entièrement faux que de se dire que oui, mais à cette époque, les jeunes n'avaient pas de shahawat. Vous pensez, un être humain reste un être humain. Quelles que soient les époques, arrive un âge, il y a des choses qui passent qu'on a envie. Un homme a besoin de connaître une femme, a besoin, etc. Ça, c'est les mêmes shahawat qui existaient chez toutes les personnes. Mais eux, avec le iman, comment ils ont su le canaliser? Et l'exemple de Ali ibn Abi Talib, on ne va pas citer le mawqif, le courage de Ali ibn Abi Talib, le jour de Badr, ou alors le jour de Uhud, ou le jour de Ahzab. On va juste citer un événement que tout le monde connaît pour vous montrer qu'un jeune homme de cet âge-là, subhanallah, comment il a fait preuve de courage à un moment clé de l'histoire de notre dîn. Sans ce courage-là, Allah seul sait quelle aurait été la situation de la Ummah. Un événement clé, c'était quoi là? La Hijra. Si Ali ibn Abi Talib n'avait pas eu le courage de prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison lors du Hijra, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas pu quitter Madinah, Makkatul Mukarrama. Parce qu'il y avait des jeunes de chaque tribu qui l'attendaient avec une épée et dit que quand ils sont, on le tue. Ils étaient le Makkah, toute la population de Makkah, toutes les tribus étaient d'accord pour qu'il y ait un jeune homme de chaque tribu qui porte un coup fatal au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Le but était de l'empêcher de quitter sa maison pour aller s'installer à Madina. Parce qu'ils savaient que si le prophète allait à Madina, les musulmans allaient avoir une ville et les musulmans deviendront forts. Et Makkah sera en danger parce qu'ils vont perdre du terrain par rapport aux musulmans. Et donc la clé, c'était que le prophète puisse quitter sa maison, quitter Makkah pour aller à Madina. Et là, un jeune homme comme Ali ibn Abi Talib, retenez cet âge, 18 ans, il prend la place du prophète dans son lit pour permettre au prophète de sortir avec l'aide d'Allah. Le mu'ajiza qu'on sait qu'Allah ta'ala fait en sorte que les kuffars n'ont rien vu et que les kuffars, ils regardent dans la maison, ils voient un homme dormir dans un lit sur une couchette. Ils disent qu'il est toujours là, il n'est pas sorti. Et au matin, quand il sort, c'est Ali ibn Abi Talib, c'est pas An-Nabi alayhi salatu wassalam. Et là, ils comprennent qu'ils se sont fait avoir. Imaginez le courage, subhanallah. Ils auraient pu entrer dans la maison et décider de le tuer d'un moment à l'autre. Ça, c'est un jeune. De quoi il était capable? Quelle était la force de son iman? Un jeune qui fait comme vous et moi, les mêmes sens, les cinq sens, les mêmes shahawat, mais un iman extraordinaire, exceptionnel, qui fait qu'il peut donner sa vie pour Allah et son prophète. Donc, ça, c'était que l'exemple de Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, pour ça, une fois, à l'issue d'une, pendant Khaybar, il disait que la'atiyanna ar-raya ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Il a dit que je vais donner l'étendard demain à un homme qui est aimé par Allah et son prophète. Tous les sahaba, il dit que ils aimeraient cette personne. C'est exactement comme si que l'imam après la salat se retourne dit que en sortant de la masjid, j'ai un chèque d'un million d'euros. Il n'y a pas l'ordre, on va donner ça à un musalli. Tout le monde dit Allahu Akbar, Allah, que ce soit moi, que ce soit moi. Il y a cette ferveur. Eux, leur ferveur, c'était quoi? C'était d'avoir cette attestation que Allah et son prophète l'aiment. Si c'est lui qui était choisi, ça veut dire qu'Allah et son prophète l'aiment. Pour eux, c'est le succès total, ça. Avoir l'attestation de ce dunya, qu'ils sont aimés par Allah et son prophète, Allahu Akbar, c'est fawzul kabir pour eux. C'est le plus grand succès. C'est comme ces trois sahaba. Qui sont pas partis de la campagne de Tabouk. Quand ils ont su que le prophète Sam était fâché avec eux, c'était la fin du monde. Quand ils ont su qu'Allah et son prophète étaient mécontents d'eux, ils ne sortaient plus. Il y en a un qui sortait, Ka'b, je crois. Ka'b, il sortait, il allait voir les gens jusqu'à un moment donné, lui-même était découragé. Ça veut dire que les deux autres, ils restaient chez eux, ils pleuraient du matin au soir. Pourquoi est-ce qu'ils pleuraient du matin au soir? parce que leur épouse et leurs enfants ont été tués, parce qu'ils ont perdu tout, leur maison a été brûlée, qu'ils n'ont plus rien, ou on leur a annoncé qu'ils ont une maladie incurable. Non, ils avaient leurs biens, leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leur argent, leur monture, leur maison, tout était là. Qu'est-ce qui a fait que c'était la fin du monde pour eux? Allah Ta'ala ne les aimait plus, ne les était pas satisfait d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détournait le visage, il ne voulait même pas leur faire salam. Pour eux, c'était la fin du monde. Et regardez pour Ali ibn Abi Talib, les sahaba, savoir qu'Allah est content d'eux, que Allah est satisfait d'eux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aime, l'aimait, c'était la plus grande source de joie. Ils sont tous contents, qui va être choisi? Et le prophète alayhi salatu wa sallam donne l'étendard à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, un jeune homme qui reçoit l'attestation de l'amour d'Allah et de son prophète de ce dunya. Ce sont eux nos modèles, mes chers frères. Et dans toutes les maisons des musulmans, il faut que régulièrement, tous les jours, on lise l'histoire des prophètes, on lise l'histoire des sahaba, l'histoire des tabi'in, l'histoire des grands savants de l'islam. Pourquoi? Parce que nos enfants, ils ont besoin de repères, comme on a dit tout à l'heure. Mais, subhanallah, à l'extérieur, au collège, au lycée, dans la rue, ils ont les repères qu'ils trouvent. Mais sinon, on ne rétablit pas la vérité. Certes, il y a une vague énorme qui vient de l'autre sens. Mais sinon, on ne fait rien du tout. On laisse la vague s'abattre, on ne fait rien. Ben, il ne faut pas s'étonner que l'enfant est noyé. Il faut qu'on soit là. On marque notre présence. À la maison, à une heure précise, tout le monde s'assoit. Et on fait le ta'alim. On explique comment étaient les sahabas. Surtout, la vie des sahabas, ridwanullahi alayhim ajma'in, qui sont nos modèles et qui ont connu les fitnas. Pire que nous, qui ont connu la mort, la persécution pour garder la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans leur cœur. Donc, la prochaine fois, on va développer un peu ces thèmes. On va parler de Mu'adh ibn Jabal, un des plus grands alims de l'humanité, qui lui aussi était un jeune. Il est mort à peu près 28 ans, Mu'adh ibn Jabal. Et on va voir que Mu'adh, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Une parole. Un jeune homme de 28 ans, à notre époque, Allah Akbar, il ne pourrait pas dire un poisson de ce qu'il a dit. Comment il reconnaît qu'il retourne auprès d'Allah et sa joie de retourner auprès d'Allah? On va voir également la prochaine fois, Inch'Allah, l'histoire de Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, un jeune homme qui a eu des responsabilités énormes. Le Prophète sallam lui confie la direction d'une armée de 3000 personnes. Parmi ces gens-là, il y a Umar ibn al-Khattab. Et là, ça nous fait comprendre également qu'on doit savoir responsabiliser les jeunes. Qu'ils aient confiance en eux, montrer que je te fais confiance. Bon, le Prophète sallam donne l'armée, la direction de l'armée, il avait 20 ans et il va diriger l'armée avec des sahabas, des Ahlé Badr. On va voir également l'histoire, Allahu Akbar, de Moussa ibn Umair. Ça, on pourrait y raconter des mois et des mois. Quelle était sa situation? Un jeune homme riche, il a des vêtements inestimables en termes de prix. Il a des parfums que quand il passe de la rue, les gens savent que Moussa est passé ici. Riche, il a tout. Il a tout ce qu'il veut. Et il quitte tout. Tout ce qu'il a comme bienfait pour Allah Azza wa Jal, que quand il meurt, il y a presque rien pour couvrir son corps, pour l'enterrer. Et enfin, on va voir l'histoire de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, Jami'ul Quran. Une responsabilité là également énorme. Ali ibn Abi Talib, il a joué un rôle énorme dans l'islam. Et Zayd, il a joué un rôle exceptionnel, Jami'ul Quran. Celui qui a été rassemblé les différentes révélations pour faire une compilation du Quran. Qu'Adhan de Tawfiq, donc, de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah nous accepte, hein, si on est papa, qu'Allah nous donne la compréhension de notre rôle et du rôle de notre maman à la maison. Et si on est jeune, on n'est pas marié, hein, on doit, c'est l'occasion également de se fixer des objectifs que quand un jour je serai papa, hein, je ne vais pas faire telle erreur, je vais être proche de mes enfants. De nos jours, comme on a dit tout à l'heure, on donne la priorité, c'est les études. Et pour qu'ils réussissent, on leur donne tout ce qu'ils veulent, des cadeaux. Tu as ton brevet, je te donne une PS. Tu as une bonne note, je ne sais pas moi, en seconde, tu passes en première, je te donne telle chose. En première, je te donne ton scooter. Si tu as ton bac, je te paie ton PMI. Si tu passes à la fac, tu réussis la première année, je t'offre une voiture. C'est-à-dire que, yani, c'est dunya contre dunya. Réussite au dunya, je te donne dunya. Mais comment voulez-vous que l'amour du dunya n'entre pas dans son cœur et qu'il n'y ait rien, il n'y a plus aucune place? Mais jamais un souci pour son akhirat, jamais un souci pour son iman, sauf quand c'est la catastrophe. Qu'il vient vous annoncer des trucs catastrophiques, là, c'est comme si on se rappelle qu'il est musulman et que je dois l'inculquer certaines valeurs. Mais ces valeurs-là, un, je ne les avais peut-être pas en moi, et deux, je ne lui ai pas fait comprendre que c'était les priorités. Après, on se mord les doigts. Qu'Allah nous pardonne, nous accepte. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.